On parle beaucoup de notre relation à la nature, de se reconnecter à la nature. On sait à quel point elle est importante, par exemple dans ce que l'on ingère. On voit de plus en plus des retours à des méthodes traditionnelles de soins. On a une relation aux plantes de manière générale, que ce soit le café, le tabac, l'alcool, le thé, extrêmement importante. Et pourtant, sur le sujet des produits dits hallucinogènes, on est, en France en tout cas, complètement bloqué. Et aujourd'hui, je suis hyper content, je pense que vous imaginez pas à quel point, de recevoir Françoise Bourza, que j'ai entendu pour ceux qui connaissent sur le podcast de Tim Ferriss, qui est sans doute l'une des femmes les plus respectées au monde, en tout cas aux États-Unis et dans le monde occidental, sur le sujet de la santé mentale et des produits hallucinogènes. Et avec Françoise, qui se trouve être française, même si ça fait 40 ans qu'elle est aux États-Unis, on va parler de ces produits, comprendre d'où vient cette diabolisation en France, comprendre à quoi ça peut servir sur le plan thérapeutique, comprendre comment aussi on les ingère, parce qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ces traditions, comprendre aussi si ils sont applicables à notre culture, tout simplement. C'est une conversation extrêmement intéressante, je crois, même si vous êtes a priori complètement bloqué sur le sujet. Je pense que ce sera intéressant pour vous de l'écouter, pour ouvrir des discussions dans votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Françoise.
Bonjour Grégory.
Je suis hyper ravi de faire cet épisode ensemble. Je voudrais commencer par ton histoire personnelle. Étant jeune, tu as eu une expérience assez traumatisante en Inde.
En Thaïlande.
En Thaïlande, pardon, mm-hmm. Je pensais que c'était en Inde. Sinon, mm-hmm. C'était avec un Indien et c'était en Thaïlande.
Avec un Indien en Thaïlande.
Et est-ce que tu peux nous expliquer cette expérience? Et j'aimerais bien comprendre quel rôle ça a eu pour toi dans ta vie.
Mm-hmm. Alors, cette expérience, c'était que je voyageais seule en Thaïlande. J'avais 23 ans et voilà, j'étais partie visiter quoi. C'était 79, il y avait pas beaucoup de pèlerins sur la route encore à cette époque-là, mais bon. Et je visitais un site où il y avait des anciens temples, donc. Et puis j'ai rencontré cet homme d'Inde qui était un ingénieur civil qui finissait un contrat en Thaïlande et qui avec lequel j'ai sympathisé pour la journée. Et nous avons échangé nos guides du routard machin. Et puis on a décidé de visiter un lieu de temple qui était un peu isolé, un peu séparé de la localité centrale de ces temples. Et puis, en fait, une fois qu'on était sur ce petit chemin, on s'est fait attaquer par deux bandits, deux brigands, qui nous ont tiré un pistolet sur porte, comme ça, là, paf, en direct. Et puis, il est mort devant moi, il s'est fait tué dans la tête, quoi. Et moi, j'ai reçu une balle dans la jambe et je me suis écroulée et j'ai été récupérée par un petit fermier et puis emmenée à l'hôpital, emmenée à la station de police et enfin, etc. Cet homme était apporté sur la table d'opération à côté de moi où j'étais et il est mort là. Et j'étais très, très traumatisée, évidemment. Et en même temps, cet épisode de ma vie m'a vraiment fait voir la fragilité de la vie et le côté extrêmement précieux de la vie que j'avais et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie alors que j'étais un petit peu incertaine. J'avais démarré des études, j'avais laissé mes études, j'avais voyagé en Amérique du Sud, dans les Amériques pendant 9 mois, faire du stop avec mon mec. J'avais 19-20 ans, c'était bien. J'avais fait des trucs sympas dans ma vie. J'étais assez aventurière, mais en même temps, j'étais pas très sûre de mon chemin professionnel, d'études ou quoi. Et en fait, cet épisode-là m'a vraiment mis sur des rails de faire le choix de vraiment ce que je voulais faire dans ma vie sans être limitée par ce que je devrais faire ou ce que la société me demandait de faire. J'étais assez déprimée, en fait. J'étais pas très sûre de moi-même, on va dire. Sûre de mes décisions, un peu paumée, quoi. Et donc, j'ai décidé de vraiment prendre ma vie en main et en fait, d'économiser des sous et de déménager aux États-Unis pour pouvoir étudier, aller faire des études de massage. Je voulais faire du massage de bien-être, mais à l'époque, en France, il y avait juste être kiné, ce qui m'intéressait pas vraiment. Et donc, je voulais pas trop faire des études médicales, c'était plutôt du massage de bien-être que je voulais faire, que j'avais eu l'occasion de recevoir pour différentes relaxations, etc. Et donc, je suis venue en Californie étudier ça. Et en fait, voilà, en fait, je suis jamais repartie, quoi. C'était en 81. C'était en 81 et je suis jamais repartie. J'ai aimé ma liberté, la possibilité de recréer quelque chose ici, donc en Californie. Et peu de temps après, enfin, deux ans et demi environ après mon arrivée ici, j'ai rencontré des personnes qui étaient complètement engagées dans un travail personnel, donc de développement personnel, de thérapie, en fait, qui étaient associées avec la prise de substances psychotropiques ou psychédéliques, qui accéléraient et approfondissaient la connaissance personnelle, la guérison personnelle et l'ouverture d'un espace spirituel personnel. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup attiré. J'ai commencé à faire ce travail moi-même. Et puis, j'ai décidé de m'embarquer là-dedans en faisant, donc, reprenant des études de psycho, pour avoir une maîtrise en psycho, pour pouvoir faire différentes expériences, différentes études qui m'orientaient plus précisément sur ce champ d'action. Et depuis, j'ai continué à approfondir tout ça.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en France, il n'y a aucune étude sur les psychédéliques comparée à ce qui se passe en Angleterre, au Canada ou aux États-Unis. Et dans la tête des gens, pour beaucoup en tout cas, il y a une diabolisation, une incompréhension de la différence qu'il peut y avoir entre, j'en sais rien, de l'héroïne, de la cocaïne, des champignons hallucinogènes, de l'ayahuasca pour ceux qui savent ce que c'est, du LSD. Comment on explique une telle différence culturelle entre des zones? Parce que c'est quand même incroyable, parce que toi, tu es française, tu es une référence mondiale sur le domaine, et pourtant, en France... je pense que ton nom, il n'est pas hyper connu, à part pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet. Comment ça se fait que ça ne traverse pas les frontières? C'est étonnant, tout traverse les frontières, et ce sujet-là, ça reste bloqué, en fait.
Oui, je pense que les Français, ou la culture française, est assez sceptique, est assez, apeurée par rapport aux choses pourrait avoir affaire avec des sectes, avec des pratiques un peu ésotériques, un peu bizarres. Il y a un jugement rapide et formel sur tout ce qui est un peu en dehors des habitudes, on va dire. Ce qui est un peu nouveau est un peu pas pris au sérieux, malgré que c'est pas nouveau, c'est ce qu'il y a de plus ancien, d'ailleurs, on pourrait dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus ancien au niveau médical, on pourrait dire, mais disons qu'il y a une certaine opinion qui est malheureusement rigide, et aussi il y a une certaine prise en main de tout le domaine psychologique par un monde psychanalytique qui a été quand même très fort en Europe et qui a démarré en Europe et qui est resté engrainé vraiment en Europe. Et donc, il y a une certaine, stagnance sur ce système psychologique qui est resté très, très psychanalytique vraiment jusqu'à ce jour, alors que des méthodes psychothérapeutiques et psychologiques diverses qui s'inspirent de la psychanalyse mais qui ont évolué, qui se sont élargies sur des mondes plus psychosomatiques, plus psychospirituels, ne sont pas vraiment intégrées en France d'une manière mainstream, quoi, d'une manière c'est dommage, c'est dommage, et les choses sont toujours un peu en retard en France, 15-20 ans après, quoi. Donc moi je me rappelle quand je venais en France dans les années début des années 90 avec mon enseignant de psycho somatique, donc qui était de la psychologie basée sur l'observation de nos émotions au niveau corporelle, donc comment on organise nos émotions physiquement. On parlait de ça dans une conférence en France et les gens nous regardaient comme si on était on venait de Mars, quoi. Alors que c'était déjà aux États-Unis normal depuis 30 ans, quoi. Normal depuis Gestalt de Fritz Perls et Carl Rogers, c'était déjà acquis depuis les années 60-70, et on était en 80-93. Et en France, on me regardait comme si j'étais vraiment, je parlais d'un truc très ésotérique, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment la France n'est pas très créative, n'est pas très enthousiaste des choses nouvelles, malgré que il y a toute une couche de population qui s'enthousiasme, évidemment, hein, comme tu dis, de ces nouvelles méthodes. Évidemment.
Pourtant, en France, mais aussi de manière générale en Europe, on a une relation aux plantes qui est très forte, parce que le café, le thé, le tabac, l'alcool, tout ça, ce sont des produits qui sont faits à base de plantes. Donc, on a quand même cette relation aux plantes, qui n'est pas du tout européenne, parce que le café, ça n'a rien d'européen, le thé non plus. Et pourtant, on fait un distinguo très fort entre ces substances-là qui nous semblent socialement complètement intégrées et les autres. Et pourtant, le café, c'est Michael Pollan, donc un journaliste américain, qui disait que c'était la substance qu'il avait eu le plus de mal à quitter. Et on sait que l'alcool, c'est une drogue extrêmement destructive, qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Et ça, pour le coup, c'est totalement socialement accepté. Donc, c'est même pas une question, j'ai l'impression, d'impact des produits, mais plus d'intégration sociale.
Absolument. Absolument. C'est quelque chose de culturel. Hein? Dans certaines sociétés, la ganja, donc la marijuana, le cannabis, quoi, est complètement intégré. Hein, en Inde, il y a beaucoup de gens qui fument du cannabis dans la rue, c'est normal. Au Maroc, le kif est considéré d'une plante que les gens consomment. Enfin, c'est pas vraiment hors la loi. Aux États-Unis, maintenant, il y a plein d'États dans lesquels le cannabis est complètement légal. Donc, les gens peuvent l'acheter. Il y a des boutiques partout. Il y a des grands panneaux de pub dans la rue qui font de la pub pour les centres d'accès de cannabis pour les traitements et machin. La consommation personnelle. Et donc, c'est vraiment une mouvance sociale, quoi, qui a fait que, d'ailleurs Michael Pollan parle dans son bouquin aussi sur l'opium, hein, puisqu'il parle de l'opium dans ce bouquin là que je viens de lire aussi récemment, et il parle de l'opium quand étant vraiment une stratégie très claire de la part des Anglais à l'époque de leur colonisation de l'Inde et de la Chine pour créer un commerce qui faisait que l'opium qui à l'origine était poussé en Chine maintenant devenait poussé en Inde. Enfin bon, il y avait tout un commerce qui était manigancé, on va dire, hein, par les Anglais, quoi. Donc c'est vraiment toutes ces consommations là de plantes qui effectivement sont complètement tissées dans la trame sociale, sont vraiment des plantes qui font beaucoup beaucoup de dégâts, hein, puisqu'on sait que l'alcool fait énormément de dégâts. Enfin, c'est une des plantes qui tue le plus, hein, et historiquement. Mais c'est accepté. Mais c'est c'est. Je crois que les gens ont toujours aimé. Enfin, l'humanité a toujours désiré changer son mode de pensée, son mode de fonctionnement mental. Et donc, les gens aiment altérer leur conscience. Hein, c'est ce que Michael dit aussi dans son book, son livre. Les gens aiment altérer leur conscience avec des substances. Mm-hmm. Et même le tabac, évidemment, les gens fument, maintenant, ne se rendent plus compte, mais ça altère notre mode de fonctionnement. Et le café aussi, et l'alcool aussi. Donc ça nous change, hein, ça nous change de notre état naturel. Et ça, je pense que c'est une tendance ou une envie humaine qui est très, ancré dans le développement de l'humanité, quoi, on peut dire.
Ouais, c'est marrant, j'entends déjà les gens qui sont en train d'écouter en train de se dire, ils sont vraiment en train de comparer le café avec des champignons hallucinogènes. Et oui, je confirme qu'on est vraiment en train de faire cette comparaison.
Et oui. Parce que je pense que, par exemple, quand on parle, on rigole comme ça, si on compare le café avec les champignons hallucinogènes, ben, en fait, oui, parce que, bon, les champignons hallucinogènes, c'est quand même un changement de mentalité quand même assez extrême. Mais comme Michael le disait dans son livre, il y avait des gens qui consommaient du café à grande quantité, des gens connus d'ailleurs, qui consommaient du café à grande quantité, qui étaient carrément dans un état modifié de conscience extrême. Pas juste la petite dose, le petit café après la petite expresso après le déjeuner, c'était vraiment intense quoi. Mais dans les sociétés où les champignons sont consommés de manière, on peut en parler plus évidemment parce que c'est mon champ, mais de manière disons rituelle et respectée et acceptée et intégrée dans la trame sociale, les champignons sont tout à fait consommés en grande modération et avec beaucoup de précautions. Et donc, ça ne devient jamais un danger, en fait.
Mmh. Il y a même des cérémonies de cacao, d'ailleurs.
Oui.
Pour revenir donc, sur
sûr.
Une autre plante qu'on
Bien
consomme
sûr.
Ici.
Bien sûr.
Sans problème. Et alors, justement, toi, tu es thérapeute.
Oui.
À quoi ça peut servir? Alors, on peut peut-être faire la différence entre les différents produits, parce que c'est vrai que je pense que la majorité des gens qui nous écoutent alors, connaissent la marijuana, évidemment, connaissent sans doute ou ont déjà entendu parler des champignons hallucinogènes, ne connaissent sans doute pas le San Pedro ou l'ayahuasca. Est-ce qu'on peut faire une différence déjà entre les substances et aussi à quoi ça peut servir sur le plan thérapeutique? Parce que je pense que les gens associent les substances hallucinogènes avec du récréationnel. C'est-à-dire, en fait, ils vont prendre ça en se disant bah, le MDMA ou le LSD, alors qu'ils sont, pour le coup, le LSD, ce n'est pas des plantes, de mémoire. Ils vont associer ça avec des grosses fêtes à base de musique électro et point, en fait. Ils ne vont pas forcément associer ça avec une pratique thérapeutique. Donc, peut-être différencier les produits, si c'est possible. Je ne sais pas si tu peux le faire et je ne sais pas si ça peut se faire. Et puis aussi, derrière, à quoi ça peut servir?
Alors, chaque substance a sa propre personnalité, sa propre... son propre goût, on va dire, sa propre couleur et sa propre origine et sa propre géographie, hein, son lieu de croissance, son lieu d'existence. Hein. Donc déjà, ça fait une distinction certaine par rapport à d'où ces plantes viennent, comment elles sont, comment elles poussent, quelles sont leurs formes, et puis après quels sont leurs contenus. Enfin, et quels sont leurs effets, hein, et à quoi cet effet peut être bénéfique sur l'état mental ou social ou psychologique des gens. Alors, les champignons sont pas une plante, c'est une espèce par eux-mêmes, hein, c'est entre l'humain et les plantes, hein, c'est un peu entre les deux. Et donc, les champignons sont des champignons qui sont très éphémères. Alors, les champignons sont les fruits d'un corps mycélial qui existe sous la terre, hein, qui émet donc ici ou là ces champignons qui sont en fait les fruits de cet organisme. Les champignons sont très, donc comme j'ai dit, éphémères. Ils poussent en 2 jours et ils meurent en 2 jours. Hein. Donc c'est très très voilà leur message, on va dire, leur contenu, leur forme et leur existence ont beaucoup à faire avec l'éphémère de la vie. Et donc c'est un message très important par rapport aux champignons parce qu'ils nous apprennent à mourir. En fait, les champignons nous enseignent sur la vie et la mort. Et d'ailleurs, les champignons sont en ce moment reconnus aux États-Unis et au Canada, surtout au Canada, et pratiqués au Canada comme autorisés à être consommés par des gens proches de la mort en soins palliatifs. Donc ça, c'est un grand pas dans la reconnaissance de cette, on peut en parler plus en détail plus tard, de cet usage spécifique du champignon par rapport à cette étape de vie, qui est très inhérente justement à la constitution des champignons eux-mêmes. Après, il y a l'ayahuasca. L'ayahuasca est une composition entre liane et une feuille qui sont cuites ensemble, mises dans une espèce de thé, plus ou moins épais selon le mode de cuisson, et qui est en plus quelquefois agrémenté ou je sais pas d'autres herbes qui sont rajoutées à la potion et qui cette potion est bue en petite quantité, généralement au sein d'un groupe, dans des cérémonies guidées de nuit par des personnes qui ont été formées par des maîtres d'ayahuasquero d'Amérique du Sud, puisque c'est une plante qui vient, enfin une médecine qui est d'origine amazonienne. Et donc ces cérémonies-là sont voilà guidées avec des chants, un peu comme les champignons d'ailleurs, avec des chants, des prières et certaines interventions spécifiques, ou bien avec du tabac, ou bien avec certaines interventions que chaque maître émet, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc ça c'est pour les champignons et l'ayahuasca sont une famille de tryptamines qui agissent sur le cerveau d'une manière identique et qui donnent des visions, qui changent notre perception de notre construction d'identité, on va dire, pour un fondu plus global dans lequel nous nous sentons moins identifiés avec qui nous sommes et plus dans un fondu global, social, écologique, énergétique, spirituel. Donc ça, c'est la fonction de l'ayahuasca et des champignons, puisque c'est la famille des tryptamines avec le LSD d'ailleurs. Aussi, par ailleurs. Le travail au sein de la mescaline, et d'ailleurs de l'MDMA, si on parle de substance, est un différente expérience qui est basée sur le fait que notre structure de l'ego est intacte. Donc, nous ne sommes pas en dehors de cette réalité. Nous sommes dans cette réalité avec l'évidence et la perception de ce principe de qui nous sommes dans ce monde-là, avec notre perception qui est agrandie, mais qui n'est pas altérée, hein, qui n'est pas transformée dans un fondu, comme je l'ai dit auparavant. Donc la mescaline était d'ailleurs le début la littérature avec Aldous Huxley qui a écrit The Doors of Perception, les doors de la perception, c'était une expérience de mescaline. Et ce qui est intéressant, c'était aussi ma première expérience avec les substances, c'était une expérience de mescaline en Amérique du Sud également. Donc ça, j'ai une certaine résonance avec Aldous Huxley dans la mesure où c'était un peu l'ouverture de mes portes de la perception aussi à moi en réalisant à 19 ans cet autre état d'être, n'est-ce pas, qui me faisait me sentir et plus moi-même et percevoir la réalité de l'extérieur. Donc ces plantes-là, effectivement, on peut dire, ont existé depuis des millénaires. Hein, ont existé depuis des millénaires. D'ailleurs, il y a un très très beau livre que je viens de recevoir de Mathias Delattre. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ça s'appelle Mother's non. Therapy. Un livre extrêmement beau d'un Français qui a publié ce livre. C'est un livre d'art qui parle des champignons en même temps. Enfin, c'est très, très, très beau. Je le recommande vraiment. Hein, c'est magnifique. C'est une pièce, vraiment une pièce d'art, quoi. Avec des photos, etc. Et dans ce livre, il y a des photos, justement, de peintures rupestres des champignons dans les caves d'Espagne ou différentes traces de l'évidence de ce qu'on appelle des sorciers ou des chamans ou des gens qui, il y a 150 000 ans, pratiquaient déjà, n'est-ce pas, des champignons. Donc, l'Europe ancienne, des premiers hommes qui habitaient dans les caves en Europe, pratiquaient déjà ces champignons psychédéliques. Donc, on peut dire que c'est vraiment… les champignons sont la substance tracée dans l'humanité la plus loin en arrière. Hein, on parle de ça comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que les autres non plus. Hein, les San Pedro est aussi… C'est juste parce que il y a des dessins, il y a des choses. Mais le San Pedro, d'ailleurs, il y a des, je sais pas si c'est des dessins dans des caves ou sur des roches au nord du Pérou qui aussi documentent l'existence de San Pedro, mescaline depuis très 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 longtemps. Donc l'existence de ces substances est très ancienne. Et en fait, vraiment, on peut dire que ces substances-là, elles ont existé en même temps que l'être humain a commencé à exister. C'est intéressant de voir à quel point elles nous ont accompagnés vraiment dans tout ce chemin de développement, d'évolution de notre humanité, et à quel point les êtres humains se sont penchés vers ces plantes depuis le début pour être guidés, pour être inspirés, pour acquérir du langage. D'ailleurs, il y a une certaine théorie qui qui parle de l'acquisition du langage à travers cette consommation de champignons, hein, de la partie du cerveau qui dirige le langage aurait été développée à la consommation de champignons.
En fait, il y a plusieurs trucs qui me viennent. D'abord, donc bien expliquer que la mescaline et le San Pedro, c'est la même chose, mais souvent on dit que la mescaline, c'est la substance préférée parce que c'est l'expérience la plus mild, enfin plus souple, la plus facile d'accès sans doute. Mais surtout, par rapport à ce que tu dis, je crois que c'est hyper intéressant de voir que ça nous a aidé à créer pas mal de choses. Et j'ai entendu justement Michael Pollan, dont on parlait tout à l'heure, dire que le test PCR, donc qui est beaucoup d'actualité en ce moment, a été inventé sous LSD, en fait. Donc c'est
quel alors, test oh, le test PCR
le, ah, le oui. PCR. Hein.
Ah oui.
Le test PCR a été inventé, la personne elle était sous LSD quand elle a inventé le test PCR en fait. Et donc ça nous fait des avancées et effectivement il y a cette théorie autour du langage. Et finalement, peut-être que ces plantes elles nous ont accompagnés dans l'évolution même de notre cerveau et de notre et de ce que l'on est aujourd'hui. En fait.
Je pense que oui, je pense que c'est vraiment vrai. Je pense que c'est pas juste ils ont voulu prendre de la drogue ou je sais pas. C'est vraiment ça fait partie de notre évolution de l'humanité et c'est un peu ça fait un peu peur pour certaines personnes qui peuvent pas envisager que des substances comme ça aient fait partie de notre évolution. Mais je pense que c'est vraiment une réalité et qu'il faut se réveiller et accepter que ça soit le cas, quoi. C'est pas juste une hypothèse un peu bizarre, c'est vraiment une réalité. Et donc ça fait partie de l'existence de notre humanité comme d'autres choses, quoi. Enfin, c'est pas plus ou moins, quoi.
Du coup, tu disais tout à l'heure que les champignons ça peut aider dans la fin de vie en tant que peut-être soins palliatifs.
Oui.
Il y a Adolf Huxley et d'autres qui ont pris du LSD, par exemple, aussi, en fin de vie. À quoi d'autre ça peut servir? Je sais que pour... il y a plein d'usages pour ces produits. J'expliquais à quelqu'un hier qu'on peut prendre ces produits pour arrêter des addictions, par exemple à l'alcool ou au tabac. Et ça leur a semblé bizarre de se dire, attends, tu vas prendre, alors dans leur langage, une drogue pour arrêter une autre drogue, c'est quand même pas très très logique. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière thérapeutique à quoi ça peut servir? Et pourquoi on en parle aussi autant? Il y a beaucoup d'investissements, pas en France évidemment, mais il y a beaucoup beaucoup de sociétés qui se créent. Tu peux aussi nous parler de ton centre à Los Angeles et toutes les recherches qui sont faites autour de ça. Ça, c'est hyper intéressant en fait.
Ce qui a été étudié, trouvé et conclu à travers ces expériences, guidées par des gens qui avaient au-delà d'une culture autochtone, on va dire, dans des situations ritualistiques de leur culture. Il a été démontré ou reconnu que ces substances-là, en fait, elles ont un effet très intéressant sur la connaissance de nous-mêmes, sur l'entendement de nos nœuds émotionnels, relationnels, psychologiques. Et qu'en fait, au niveau psychologique, donc psychanalytique, psychologique, c'est intéressant de reconnaître, d'élucider, de mettre de la lumière, ce qui est très jungien, ce qui est très freudien en fait, de mettre de la lumière sur des zones de notre être intérieur qui sont difficiles d'accès, qui sont difficiles d'accès au niveau de notre conscience régulière, normale. Donc ces substances-là, elles pénètrent au-dessous de nos couches d'entendement de qui nous sommes. Et au niveau psychologique, c'est très intéressant ça. Parce que du coup, on peut reconnaître pourquoi on boit ou quels sont les nœuds de notre peur d'enfant pas résolu qui se trouvent gérés à travers une addiction. Et ça, c'est très intéressant psychologiquement de comprendre le pourquoi des choses. C'est-à-dire, on boit, ou on fume, ou on prend de la drogue, ou on prend de la coke, ou on est addicté à, travail, computer, sexe, quelque chose, quoi. Parce qu'il y a un nœud à l'intérieur, il y a une agitation sous-jacente qui mérite d'être vue, d'être reconnue, d'être traitée, on va dire, hein, d'être traité, quoi, d'être parlé, d'être vu, voilà. Et donc, ces substances-là nous aident à voir l'intérieur de nous-mêmes. Stan Grof en parle de ça. C'est vraiment un microscope à l'intérieur de nous-mêmes et nous voyons les détails de notre formation, de notre des choses qui nous ont tissés à l'intérieur, qui nous ont fait évoluer pour arriver à qui nous sommes aujourd'hui. Et de reconnaître les pas de ce chemin de vie, c'est vraiment, vraiment fascinant et très intéressant. Et c'est, pour moi, ça a été ce qui m'a le plus intriguée dans ce travail avec les substances. C'est que j'ai tout de suite vu pourquoi j'étais comment j'étais maintenant. Pas de niveau intellectuel, pas au niveau analytique, mais à niveau de ressenti. C'est-à-dire j'ai connecté les points de ma vie et les choses de ma vie et les personnes de ma vie et les histoires de ma vie qui m'ont amené jusqu'à qui je suis maintenant ou qui j'étais quand j'ai commencé ce travail. Et ça continue encore, évidemment. Hein. C'est pas que ça s'arrête. Bon, les choses continuent à évoluer et la vie continue à se passer. Et donc, pour moi, le côté thérapeutique de ces substances est fascinant. Et je ne suis pas la seule, hein, évidemment, tous les gens qui se penchent sur comment traiter de la dépression avec les études à la Imperial College à Londres, ou comment traiter les addictions avec des études en Suisse, ou comment traiter la dépression, l'anxiété à NYU, toutes ces applications de ces substances sont très médicalement et psychiatriquement très intéressantes parce que elles font évoluer les choses d'une manière radicale, profonde et rapide. C'est-à-dire que ça accélère. Et c'est pas juste une accélération, c'est aussi une profondeur des choses. C'est-à-dire que ça fait bouger tout le système à un niveau global. Donc c'est pas juste un entendement cognitif et intellectuel, mais c'est un changement énergétique, ce qui est un peu difficile d'expliquer, mais c'est un entendement au niveau des tripes, on va dire. Ça, les gens comprennent quand on comprend les choses au niveau des tripes, c'est vrai, quoi. Il y a une espèce de solidité dans cette vérité là quoi. Et donc les gens savent que quand ils comprennent quelque chose à ce niveau là c'est vraiment solide quoi. Et les substances nous font accéder à ce genre d'entendement. Donc effectivement les applications diverses et multiples sur de diverses afflictions humaines ou situations ou symptômes ou diagnostics psychiatriques sont très utiles quoi. Il y a beaucoup de résultats qui sont très probants effectivement. Alors vas-y.
Non je t'en prie.
Alors, j'allais continuer un petit peu sur le thème des soins palliatifs, justement, que tu avais évoqué au début de cette question. Ce qui est très intéressant dans la médecine, ce que les médecins racontent beaucoup, et Michael Pollan en parlait aussi quand il avait fait un peu son étude, de survoler un petit peu tout ce monde des psychédéliques, c'est que, en fait, dans le monde médical, il n'y a pas vraiment d'attention portée à la période de la mort ou de l'avant-mort. C'est-à-dire que les médecins sont là pour garder les gens en vie. Ils ne sont pas là pour les aider à mourir. Bon, je veux dire, évidemment, la médecine sauve des vies, on va dire, extraordinairement. On ne va pas minimiser ça. Mais il y a en même temps une absence de soins, d'attention ou d'études ou de soins médicaux portés sur la fin de vie. Et donc, les gens sont un peu en détresse. Bon, il y a les soins palliatifs, il y a différents... aux États-Unis, on appelle ça hospice care, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent à domicile s'occuper des gens de façon à ce qu'ils puissent mourir chez eux avec des traitements, avec des médicaments, des soins, etc. Donc, il y a quand même une attention quand même sur le confort et l'encadrement et l'accompagnement des gens en fin de vie. Mais les gens en fin de vie, en fait... beaucoup d'entre eux ont peur de mourir, on va dire. C'est pas toujours serein, la fin de vie. Des gens font face à leur peur de mort, à leur absence de concept peut-être spirituel aussi, religieux ou spirituel, selon leur passé, et sont confrontés à la fin de la vie comme quelque chose de terrible et un point final d'existence qui est qui est déprimant, quoi. Ou, et puis alors, certaines personnes finissent leur vie avec des histoires pas résolues du tout aussi. Enfin, pas résolues du tout. Des dynamiques de famille, des choses, des regrets, des remords, des secrets qu'ils n'ont jamais pu évoquer ou partager. Et donc, il y a beaucoup de poids aussi sur le cœur de personnes qui finissent leur vie. Et ces substances-là, surtout les champignons, qui sont surtout ce qui est utilisé pour les soins palliatifs actuellement, au Canada et aux États-Unis, c'est la psilocybine, donc les champignons, aident les gens à faire la paix avec leur fin de vie. Alors comment ? C'est un peu un mystère, c'est-à-dire chaque personne est unique et on ne peut pas dicter la manière dont quelqu'un va gérer sa fin de vie, évidemment. Mais ça ouvre le psyché, ça ouvre le mental et ça ouvre un espace spirituel qui est plus rassurant qu'une fin de vie, on va dire, matérielle, hein, je veux dire matérialistique. Hein. Donc ça ouvre un espace un peu plus large qui englobe un espace peut-être d'âme, alors sans parler de catholicisme ou quoi, mais un espace de l'âme, un espace de l'esprit qui est finalement plus éternel que notre vie ici, quoi. Donc ça rassure les gens, ça leur enlève la peur de finir cet espace de vie. Et puis pour certains, ça accomplit le rôle de terminer des choses pas finies justement de leur vie humaine. De réconcilier avec eux-mêmes ou avec d'autres des regrets, etc.
Et pourtant, c'est vrai que pour revenir à ce qu'on disait au tout début, les gens vont préférer des... En fait, souvent quand on parle de médecine, tu vois, quand on parle de ces produits-là, les gens nous rigolent, ils font « non mais c'est des drogues, en fait, c'est pas de la médecine ». Et en fait non, c'est vraiment de la médecine au même titre que, j'en sais rien, je sais pas exactement ce qu'on met dans les soins palliatifs, ça doit être
morphine.
De la morphine, c'est aussi un produit totalement chimique qui est une drogue de la même manière que les champignons sont une drogue, sauf que les champignons c'est beaucoup plus naturel et que ça accompagne vraiment, ça n'est pas juste réduire la douleur, ça accompagne vraiment dans la fin de vie. Donc, une autre question que j'ai et que je me pose nécessairement, c'est, alors déjà il y a plusieurs choses, c'est que bien sûr tous les gens, enfin pas tous les gens, mais une partie des gens qui écoutent, ils vont tous ou toutes avoir un exemple d'une personne pour qui ça s'est mal passé. Ou eux-mêmes, peut-être, ont fait ce qu'on appelle un bad trip. Ou... J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'accompagnement. C'est-à-dire, en fait, généralement, ces prises de produits, elles sont accompagnées. C'est pas... tu prends pas des champignons tout seul ou tu prends pas du LSD ou de l'ayahuasca tout seul. Enfin, tu peux, mais c'est pas vraiment recommandé comme ça. De la même manière que quand on prend de l'alcool, évidemment, on prend pas sa voiture juste derrière, ou en tout cas, forcément, on s'attire on a potentiellement plus de problèmes quand on conduit après avoir bu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces rituels et quel rôle ils jouent, aussi le rôle de la musique? Parce que moi, dans mes expériences d'ayahuasca, typiquement, je sais que la musique a eu un effet, enfin, a un effet extrêmement important. Donc tout ça m'intéresse, en fait. Donc tout le cadre, en fait.
Oui,
de ces rituels.
Parce que
c'est extrêmement encadré en réalité.
Absolument. Ah, mais si on regarde toutes les traditions originelles dans lesquelles ces substances sont pratiquées, ont existé et continuent d'exister et ont évolué, elles sont toutes très très encadrées. Il y a un guide, il y a un espace, il y a des accompagnants ou des assistants, enfin selon comment ça s'appelle. Il y a un système, il y a un processus enfin c'est très 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 encadré, quoi. C'est encadré avant, c'est-à-dire il y a une préparation, ou bien avec un certain régime alimentaire ou une certaine préparation spirituelle ou une certaine réflexion sur l'intention avec laquelle on arrive dans ces cérémonies-là. Il y a quelqu'un qui est guide, qui est maître, enfin maître, c'est une traduction littérale de maestro, ou bien guérisseur ou guérisseuse, hein, puisque c'est le mot de curandera qui est utilisé au Mexique pour les gens qui animent ces rituels de champignons. Donc il y a toujours un lieu, une technique spécifique, une manière d'engager avec la substance, et un guide qui est vraiment très très érudit, hein, et avec plein de connaissances et de techniques pour tenir l'espace, guider l'espace, animer l'espace, intervenir dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de partout, dans toutes les, que ça soit l'iboga, l'ayahuasca, les champignons, le, enfin, dans toutes les pratiques naturelles, on va dire, hein, des peuples autochtones qui ont pratiqué ça depuis des millénaires, c'est comme ça que ça se pratique. Donc nous, après, quand on veut, comment dire, cueillir une cérémonie en dehors de son contexte, la sortir de tout l'encadrement dont je viens de définir, alors là, on prend des risques dès le début. Dès qu'on prend quelque chose en dehors d'un contexte traditionnel bien connu et bien rodé, on va dire, on prend des risques, tout de suite. Tout de suite. Si on sort de ce cadre-là, on prend le risque de d'être pas encadré, de pas être soutenu, de pas bien être très bien préparé, de prendre des risques physiques et psychologiques. Enfin, après ça peut être un désastre, effectivement. Et donc, je pense que les gens qui disent oui, mais moi j'ai eu un bad trip, c'est généralement parce qu'ils n'ont pas été bien encadrés, ou ils n'ont pas été bien préparés, ils n'ont pas eu une intention très respectueuse vis-à-vis de la médecine qu'ils prenaient, ou ils ont voulu faire la fête avec, donc ils n'avaient pas vraiment de lecture attentive de ce qui se passait à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, ils ont pu toucher des couches difficiles, ce qui est tout à fait possible. Moi, j'ai eu des voyages, toi aussi, j'imagine, il y a beaucoup de gens, avec des moments vraiment pas très plaisants, quoi. Où on fait le cas des moments d'enfance ou des moments de moi avec mon traumatisme ou des gens qui grandissent dans des peuples en guerre. Enfin bon, il y a quand même du traumatisme hein, dans l'air et à l'intérieur de nous et des situations globales et climatiques qui sont quand même assez difficiles. Bon, donc on est confronté à l'intérieur de nous-mêmes avec des moments très difficiles que si on n'a pas un soutien, une oreille qui nous entend de l'autre côté et un entendement de ce quoi à travers nous passons, évidemment, on va se trouver lâché avec ces expériences très désorientantes, déstabilisantes, qui peuvent d'ailleurs amener à des psychoses et des dangers mortels. Quelqu'un est mort il n'y a pas très longtemps aux États-Unis qui était... qui a eu une expérience qui l'a amené dans une psychose et il est mort après quoi. Il s'est suicidé quoi. En gros.
Mais comme il y a beaucoup de gens qui meurent par l'alcool.
Exactement. Mm. C'est tout un processus d'encadrement et de contexte quoi. Dès qu'on ingère quelque chose sans intention et avec une espèce d'absence de responsabilité envers soi-même, hein. Qu'on prend pas en charge tout ce qu'il y a autour, on prend des risques mortels quoi. C'est malheureusement le cas pour toutes les substances qui nous changent notre mode de fonctionnement.
Et une question que je me pose, c'est, et que sans doute les personnes qui écoutent se posent, c'est, on parle beaucoup de peuples et de traditions qui sont des traditions. Alors, j'ai pas parlé de l'iboga, mais effectivement, iboga plutôt en Afrique, d'autres produits qui sont plutôt en Amérique latine. Est-ce que ça, c'est transposable dans nos sociétés modernes, entre guillemets, capitalistes? Est-ce qu'on peut prendre comme ça des méthodes ancestrales et les coller à des problématiques qui sont différentes parce que nous, on a évolué de manière un peu différente, moderne, entre guillemets?
Je pense que oui, et ça a été c'est un peu ça mon essai, on va dire, de vie et de ce que je propose. C'est une espèce de traduction, enfin, je sais pas, une interprétation, c'est un peu, je dis ça avec, je suis un peu modeste là-dessus, parce que bon, c'est ma vision à moi, c'est ma lentille à moi de voir les choses, comment j'ai pu les absorber et les traduire un peu à l'intérieur dans mon œil européen et américain, et comment ces traditions-là peuvent être intégrées ou traduites ou absorbées ou utilisées, je vais dire respectueusement, évidemment, par une culture très différente que dans laquelle elles sont pratiquées d'origine. Et oui, je pense que c'est possible. Et c'est ce que je disais un peu auparavant, je pense qu'il y a vraiment un moyen de faire le pont, c'est ce que je dis, mais bridging, je fais le pont entre des méthodes autochtones, une des pratiques autochtones et un monde psychothérapeutique occidental, on va dire. Enfin, bon, je sais pas, contemporain de culture industrialisée, moderne. On va dire, moderne. Hein. Et donc, je pense que c'est ça ce qui m'intéresse, moi, et ce qui m'a passionné dans ces 30 dernières années, c'est vraiment de faire ce pont-là. C'est-à-dire, comment on peut vraiment, de nouveau, hein, vraiment respectueusement, parce que bon, je suis immersée dans la culture mexicaine depuis longtemps pour savoir voilà, ça mérite beaucoup de respect, et bon, à travers d'autres pratiques que j'ai eues aussi, d'ayahuasca, de San Pedro, etc., que vraiment ce sont des pratiques vraiment qui appartiennent à un peuple, qui sont vraiment d'une certaine géographie, d'un certain une certaine terre, quoi. Bon, il faut quand même voir, ça appartient à quelque chose, quoi, c'est pas juste comme ça.
Bien sûr.
Mais qu'en fait il y a un moyen d'utiliser respectueusement leur richesse pour pouvoir nous aider, nous, les sociétés modernes, industrialisées, qui ont perdu cette alliance avec ces plantes guérissantes. C'est-à-dire, on a perdu une alliance, nous. Nous, on a oublié. C'est-à-dire, on a oublié. Et en fait, ces peuples-là nous aident à nous souvenir. Et Denise McKenna, qui vient d'être interviewée par Tim Ferriss, là, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, Tim lui demandait, si tu avais un panneau à mettre dans la rue, qu'est-ce que tu dirais? Et il disait, remember to remember. C'est ça le message, c'est souvenons-nous de nous souvenir. C'est-à-dire, comment on peut se rappeler de se rappeler? C'est-à-dire, remember to remember. C'est-à-dire, on a eu, nous aussi, partout, comme je disais avant, hein, les champignons sur les caves d'Espagne, on vient de cultures, partout dans le monde, on vient de cultures qui se sont penchées et qui ont été soutenues par des produits psychédéliques. L'humanité a grandi à travers les produits psychédéliques, pas seulement, mais beaucoup aussi, au niveau de leur soutien spirituel, de leur guérison physique, de leur trame sociale. Ça a été fait à travers et avec les produits psychédéliques, comme le blé ou le pain ou les choses qui ont grandi à travers l'humanité. Donc on est invité à se rappeler d'où on vient et de se pencher sur des sociétés et des systèmes autochtones présents, encore en vie, encore fonctionnant, encore pratiquant ces rituels, de façon à ce que nous aussi, on puisse reconnecter avec l'existence de notre rituel au niveau de nos ancêtres propres. Alors, nos ancêtres propres, je veux dire, on bouge, hein, les ancêtres, d'où, de comment, on est tous en mouvance au niveau de l'humanité, mais on est unis à travers cette prise d'hallucinogène, en fait, c'est intéressant. On est vraiment liés à travers le monde. Hein? Moi, j'ai vu pendant un moment, je faisais partie. Enfin, ma maîtresse Julieta, elle faisait partie des grand-mères autochtones, là, des 13 grand-mères autochtones. Et j'ai vu Bernadette Rebieno du Gabon, avec Marie-Élise d'Amazon, avec Rita Long Visitor Holy Dance de Lakota. Je les ai vues toutes ensemble, faire des rituels ensemble comme ça. Et à quel point elles étaient unies, à quel point elles parlaient le même langage. Elles savaient qu'au niveau de la prière spirituelle, induite par des substances ou par des états modifiés de conscience de la tibétaine, elle était très dans la prière, évidemment, dans d'autres pratiques, hein, mais elles étaient toutes unies à travers l'évidence qu'elles étaient liées à travers leurs états modifiés de conscience accédés par quelque chose et surtout par des plantes sacrées. Donc c'est intéressant de voir ça et qu'à quel point on est invité à nous souvenir de ce qui nous unit en fait, et que ces plantes-là, elles font partie de notre évolution. Et donc, on peut traduire, l'usage des plantes sacrées dans le milieu autochtone à un modèle psychothérapeutique occidental, moderne, tout à fait lisible. Hein, lisible, il faut que ça soit lisible. Parce que si c'est très ésotérique et très ritualistique avec des codes et des choses, c'est pas lisible pour les Occidentaux. Donc, il faut vraiment pouvoir traduire ces plantes-là. Ces plantes et leurs usages.
C'est marrant, dans ce que tu dis, ça fait penser à tous ces gens qui parlent de se reconnecter à la nature et qui rejettent en même temps l'usage de ces plantes. Alors qu'en fait, la reconnexion à la nature, c'est aussi de les consommer d'une manière ou d'une autre. Et peut-être, on critique beaucoup, là, en particulier, alors en France, tu as dû suivre, mais le vaccin et le message ARN, on a peur de la technologie, on a peur des labos. Et de l'autre côté, on a, alors je dis pas, il y a aucun psychédélique qui permet de se prémunir contre le Covid, hein, c'est certainement pas ce que je suis en train de dire, mais d'un autre côté, on a ces produits naturels que l'on peut ingérer et qui peuvent nous permettre de résoudre un certain nombre de traumas ou de choses. C'est une forme de reconnexion à la nature aussi, en fait.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est Julieta, donc la femme mexicaine avec qui j'ai beaucoup travaillé, elle dit qu'en fait, ce qui nous guérit, c'est la nature. C'est pas la plante qui est sur l'assiette, c'est la nature. Au-delà, au-dessous de la plante, il y a la nature qui grandit cette plante. Hein? Et donc, c'est vraiment le corps de la nature, c'est-à-dire la terre, avec sa sagesse, avec sa créativité, avec sa connaissance de ce qui nous aide, qui nous nourrit. Nous, ces enfants, enfin, c'est vraiment très, ABC, quoi. C'est vraiment très radical, mais c'est comme ça, quoi. On est vraiment nourris par ce que la terre nous offre, et que ça soit de l'iboga, de l'ayahuasca, ou des champignons ou des cactus, on est vraiment nourris par la création de la terre-mère sur des substances qui, en fait, sont là pour nous aider et nous guérir, quoi. De fait, de même que le raisin qui produit de l'alcool, de même que le tabac qui produit des cigarettes. Enfin, on est à l'origine, c'était des produits sacrés aussi, hein, l'alcool et le tabac. Donc c'est pas, c'est juste été, réutilisé. Oui, mais en fait, tous ces produits-là, tout ce que la nature produit n'est pas toxique. C'est juste que c'est mal utilisé ou surutilisé.
Sans doute. Je voudrais aussi qu'on parle d'intégration, parce qu'en fait, on est dans des sociétés très performatives. Les gens vont se demander, par exemple, sur un autre thème, mais quand on médite, les gens vont dire « Bon, mais tu médites combien de temps par jour ?» ou « Tu médites combien de temps ?» Donc, on est vraiment sur cette idée de performance. Mm-hmm. Et on est moins sur cette idée d'intégration. Et en particulier, ça prend du temps, l'intégration. Ça demande aussi un accompagnement. Mm-hmm. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, parce que pour moi, ça semble essentiel, en fait, l'intégration.
Oui, l'intégration, c'est l'application de pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait une cérémonie? Pourquoi on boit de l'ayahuasca? Pourquoi on prend des champignons? Ça sert à quoi? Enfin, qu'est-ce qui nous motive? Quelle est la raison pour laquelle on a envie de prendre ces substances? Est-ce que c'est juste par curiosité? Ok. Mais alors bon, quel est le contenu de cette expérience? Ou bien on prend ces substances parce qu'on a une addiction ou parce qu'on a une dépression ou parce qu'on a un deuil, hein? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Comment est-ce qu'on stabilise les bienfaits, les messages, les guérisons, les entendements qu'on a eus pendant l'expérience? Donc, je pense que l'intégration est absolument capitale. Sinon, ce qui se passe dans l'expérience, c'est vraiment ça se fond un peu, hein, dans notre vie courante, et ça s'oublie et ça s'estompe, et du coup l'élan qui nous a amené à consommer quelque chose, à avoir une expérience, s'oublie. Et donc finalement, c'est comme si, c'est un peu lourd ce que je vais dire, mais c'est comme si on ne portait pas sur nous-mêmes l'honneur qui nous était dû. C'est-à-dire, on se doit de nous honorer soi-même, On se doit d'honorer l'élan qui nous a amené à faire quelque chose. Et d'honorer cet élan, c'est vraiment de soutenir comment allons-nous intégrer, stabiliser, équilibrer ces changements dans nos vies. Et l'intégration, c'est d'abord se rappeler de notre intention, d'écrire et avoir une narration sur le contenu de l'expérience, et ensuite c'est qu'est-ce qu'on va faire après, de façon à ce que cette expérience, elle devienne notre vie. L'expérience, elle n'est pas là pour rester dans une bulle espace-temps, elle est là vraiment pour devenir qui nous sommes, c'est-à-dire c'est vraiment créer une nouvelle fondation de notre être. Et donc pour moi, c'est la transformation, elle n'est là que si elle se stabilise. La transformation, c'est pas juste le moment de l'expérience, c'est vraiment la vie courante. Et donc Julieta disait beaucoup, et sa fille Eugenia, elle dit c'est un processus de transformation, c'est-à-dire qui nous sommes avant et qui nous sommes après, c'est pas pareil. Donc le passage entre l'avant et l'après se fait à travers la cérémonie, mais elle se fait aussi à travers la manière dont nous allons soutenir cet espace qui a été en transformation. Donc l'intégration pour moi c'est très pragmatique, c'est-à-dire c'est très spirituel évidemment, c'est très énergétique, c'est très bon, il y a toute la beauté, le mystère de l'expérience même, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire si tu as une belle expérience spirituelle dans cette cérémonie, qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette expérience spirituelle? Est-ce que ça te guide à aider les autres? Est-ce que ça te guide à méditer ou à prier ou être dans la nature? Est-ce que ça te guide à prendre soin de toi-même mieux, c'est-à-dire de faire des moments de silence? Est-ce que ça te guide à créer, à peindre tes expériences de l'intérieur de façon à ce qu'elles soient exprimées? Il y a plein de techniques et de moyens et d'avenues de vraiment représenter ou d'exprimer ces choses de l'expérience. Mais c'est très, très important de les mettre en action. Sinon, elles s'estompent, elles s'oublient, même si l'expérience a été incroyable, ça lâche prise dans le concret. J'ai vu ça et j'ai eu l'expérience moi-même en ne faisant pas grand-chose après une belle expérience. Et puis, 2 mois après, je me disais, bon, j'ai eu une belle expérience, mais je vois pas vraiment l'effet dans ma vie parce que j'ai rien fait avec. C'est à moi que ça, la responsabilité est sur moi.
Juste pour finir, il y a aussi, je t'ai entendu dire sur un autre podcast que la santé, c'est un équilibre. Est-ce que tu trouves qu'en Occident, nos vies sont bien équilibrées, justement?
Tu sais, je ne sais pas. Je vais dire ça comme ça un peu. Je ne suis pas très sûre. Je pense que le monde spirituel est encore un petit peu cloisonné en Europe, j'ai envie de dire. Je pense que malgré que la société, je parle française, soit une société laïque, en réalité, cette société laïque a assez peur d'autres spiritualités qui pourraient exister. C'est un peu la crainte des sectes, des cultes, des choses. C'est un peu, c'est à la fois très laïque, ce qui est très très bien. Hein. C'est pas religieux, mais en même temps, il y a une crainte d'autres choses, d'autres modes, d'autres religions, d'autres spiritualités. Bon, il y a des centres zen, des centres Thich Nhat Hanh est en France. Il y a des choses qui existent évidemment. Mais il y a un côté sceptique, hein, comme ça. Les gens sont un peu craintifs sur les moyens spirituels un peu plus amérindiens ou orientaux. Il y a un peu une espèce d'opinion, les trucs New Age, un peu comme ça. Il y a un petit peu d'opinion, moi, je trouve, quand je vais en France, j'entends un peu ça. Il y a des biais sur cette multiplicité d'aspects spirituels. Je pense qu'au niveau physique, au niveau corporel, parce que bon, je vois un peu avec le modèle holistique que j'ai un peu créé là, je pense que sur le mode corporel, je pense que les Européens ont beaucoup plus d'aise sur la manière dont ils se nourrissent. Je pense qu'il y a moins il y a une culture gastronomique, on va dire, qui est beaucoup plus aimante, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus appréciative de la beauté de la cuisine avec son élégance et en même temps pas juste une élégance mais son équilibre, c'est-à-dire il y a une espèce d'équilibre instinctif dans la manière dont les gens se mangent quoi et apprécient la nourriture. Il y a plus d'appréciation et de réconciliation avec la nourriture. Je vois ça quand je viens en France et je remarque ça à tous les coups. Ou en Europe en général quand je voyage, je vois qu'il y a une joie autour de la nourriture, qui est très, très européenne, qui est touchante, qui est belle, je veux dire, de célébrer comment on se nourrit, l'aspect social qui est avec la nourriture, c'est beaucoup plus européen. Donc, je pense que l'équilibre est varié. Je pense qu'aux États-Unis, enfin, moi, ce que j'ai remarqué aux États-Unis, il y a une curiosité, une intégration plus facile du côté émotionnel. Hein. L'expérience émotionnelle, de parler de soi-même, d'aller en thérapie, de se chercher, pour des raisons de curiosité, c'est beaucoup plus intégré dans la société aux États-Unis. Il y a plus de curiosité là, sur ce plan-là. Alors qu'en France, c'est plus associé avec des mal-être, quoi. Il faut vraiment être mal ou si tu vas en psychiatrie, tu prends des médicaments. Enfin bon, c'est un peu plus médicalisé, un peu plus stigmatisé, on va dire. La curiosité envers soi-même au niveau psychologique est un peu plus plus de jugement, il me semble, en Europe. Il me semble, mais voilà, tu sais, ça fait quand même 40 ans que je suis aux États-Unis, donc je peux dire que bon, ma lecture de ce qui se passe en Europe est un peu pas très informée aussi.
Oui, non, j'imagine. Merci beaucoup pour tout ça. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ben, j'aimerais ouvrir la porte sur l'intérêt à, comme tu m'avais un peu dit avant, à former des guides. Cette mouvance à travers les psychédéliques m'intéresse, évidemment, m'interpelle, évidemment, et m'engage à faire passer à d'autres ce que j'ai appris sur mes 30 ans de pratique et vraiment d'éduquer les gens sur l'art de guider. Donc ça, c'est une porte que j'aimerais bien ouvrir sur l'intérêt et la possibilité d'éduquer des guides psychédéliques intelligents, vraiment solides. Ça c'est la porte que j'aimerais ouvrir. La porte que j'aimerais fermer, c'est les jugements a priori sur les substances psychédéliques étant des drogues, avec tout ce que ça porte de poids et de négativité.
J'ai plein de gens qui seraient passionnés d'être tes élèves de guidance, c'est sûr.
Bah, j'ai envie de démarrer une formation de guide psychédélique en Europe, justement. Et donc, j'espère que mon centre, Center for Consciousness Medicine, que tu peux mettre le lien d'ailleurs, si les gens sont intéressés. J'ai envie de démarrer des formations en Angleterre. Alors, ça va être en anglais pour certaines personnes qui sont...
Bien sûr. Hein,
et puis peut-être en France ou Suisse, peut-être en Suisse, parce que ça va être peut-être l'endroit le plus soutenant de ça.
Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Françoise.
Merci, Grégory. Merci beaucoup pour cette opportunité de partager avec toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !